Bonjour, bienvenue pour cette deuxième journée de table ronde et de symposium proposé par le FTA. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe du Festival Transamérique pour l'organisation de cette journée. Je vais d'abord vous faire un petit tour de table, en fait, et sans l'avoir vraiment cherché, nous avons fait une répartition par genre, en fait. C'est un peu surprenant, je suis la frontière, en fait, entre les deux genres. Je vais essayer, en tout cas, d'être plus que la frontière et d'être aussi le passeur, le modérateur, le transmetteur de parole. Et donc, nous avons à peu près 2 heures ensemble, et nous allons consacrer une petite heure, 1 heure et quart à peu près, déjà à des échanges entre nous. Et puis, après, on pourra faire descendre tranquillement les questions dans la salle. Autour de nous aujourd'hui, Francine Bernier, qui est la directrice générale et directrice artistique de l'Agora de la Danse à Montréal. On reviendra à toi tout à l'heure. Marie Brassard, artiste et directrice artistique de la compagnie Infrarouge à Montréal. Marie-Andrée Goujon, directrice générale de la compagnie Daniel Léveillé Danse, à Montréal également. Et du côté masculin, de l'autre côté de la table, au bout de la table, Mark Russell, que l'on ne présente plus, directeur artistique et producteur du festival Under the Radar à New York et à Los Angeles, je crois, désormais, mais Marc nous en dira un petit peu plus. Norman Hermour, metteur en scène et directeur général du PUSH International Festival de Vancouver. Et puis, Paul Casquet, directeur artistique du Live Art Dance Production à Halifax, mais qui également a beaucoup travaillé à Montréal, en particulier au studio 303. Donc, avant de vous donner à tous très rapidement la parole, puisqu'on va essayer d'être sur des présentations assez courtes. Je vous proposerai d'être sur des courtes présentations de 2 à 3 minutes pour recadrer un petit peu votre parcours et votre paysage d'intervention, et puis aussi l'endroit où vous vous placez dans cette thématique. Je vais vous rappeler très rapidement, en fait, la réflexion d'aujourd'hui, qui porte sur la question de la diffusion et de la réflexion sur les conditions de présentation des œuvres, avec quelques grandes questions que l'on va essayer de traiter ensemble, enfin j'espère. Francine me regarde fortement autour de ces questions. Donc d'abord, la responsabilité des diffuseurs à l'égard des œuvres et des artistes qu'ils présentent. Quelle est votre responsabilité par rapport à ça? Et comment les artistes voient aussi cette responsabilité? Dans un contexte aujourd'hui important, un peu fort, peut-être un peu lourd de pression autour de la diffusion, en tout cas on le sent du côté de l'Europe d'où je viens, mais je pense qu'on le sent aussi fortement du côté du continent américain, comment est-il possible de préserver dans ce contexte fort de pression sur la diffusion le processus de recherche, le processus de laboratoire, le processus de travail, de création? Marie peut-être pourra nous en parler un peu, et Marie-Andrée aussi du côté de l'accompagnement des artistes qu'elle mène. Après, comment vous vous installez aussi, vous, en tant que diffuseur, dans une relation avec ces artistes et dans ce processus d'accompagnement pour permettre la diffusion? Et puis, dans un dernier temps, je pense qu'on pourrait essayer de se pencher un peu plus sur les rapports avec le public, d'essayer de voir comment, en tant que diffuseur, mais aussi en tant qu'artiste, on met en place ces processus de médiation des œuvres, de médiation avec les spectateurs pour permettre la présentation des œuvres, et quels outils vous inventez les uns les autres autour de ces questions. Et après, j'aimerais en particulier interroger Marc et Norman par rapport à votre expérience de directeur de festival depuis un certain nombre d'années, et Marc également de lieu, puisque tu as dirigé pendant de nombreuses années le PS122 à New York, et savoir comment tu te positionnes aujourd'hui en tant que diffuseur. Est-ce que cette position de diffuseur est différente dans un lieu avec une saison régulière ou dans un moment spécifique comme Under the Radar, qui en plus à New York est posé en plein milieu de l'EPAP avec d'autres événements autour? Et comment tu as travaillé sur le déplacement de ce festival à Los Angeles? Est-ce que ça crée un contexte différent? Et est-ce que le positionnement, l'installation de ce Under the Radar Los Angeles aujourd'hui te fait regarder les œuvres différemment, par exemple? Je vous proposais de chacun, en 2 ou 3 minutes, peut-être présenter rapidement votre parcours et comment vous vous positionnez au sein de cette thématique, et peut-être commencer par Francine Bernier.
Allez hop. Une saison à l'Agora, c'est autour de 15 productions offertes au public entre septembre et mai. C'est à peu près 1 ou 2 productions qui viennent des autres provinces canadiennes, une de l'étranger, et les autres sont toutes québécoises et toutes créations. Nous avons choisi de travailler avec des artistes, d'être une maison qui reçoit, qui s'engage. Cela veut dire que nous travaillons à long terme avec eux, sur le développement de leur carrière et non seulement sur la présentation d'une pièce. Nous travaillons avec des artistes de différentes générations où le spectre des propositions artistiques est large et diversifié. Dès le départ de l'Agora, nous avons misé sur un priori, et c'est « si la qualité des spectacles est là, le public suivra ». Il y a 20 ans, la fréquentation du public, c'était une moyenne de 60 spectateurs dans la salle. Maintenant, la moyenne est de 170 dans une salle de 241 sièges. Nous avons surtout intervenu sur la création par des accueils en résidence, et ça a été un choix dès le départ, un choix où nous avons choisi d'arrêter de louer la salle, d'ouvrir aux artistes. Ces 270 semaines qui ont été dédiées à la création depuis 20 ans, si vous calculez, ça donne à peu près 5 ans de résidence de création sur les 20 ans. Nous intervenons aussi par la coproduction. Notre présidente de conseil d'administration a mis en place un fonds de création. Donc, nous allons chercher de l'argent dans le privé et nous le réinvestissons auprès des artistes. Concrètement, c'est entre 15 000 et 75 000 qui sont investis à chaque année, soit un peu plus de 400 000 $ depuis ses débuts. Il faut juste placer aussi dans le contexte qu'il y a 20 ans, c'est exactement il y a 19 ans, quand je suis arrivée à l'Agora, le budget donnait qu'il y avait 85 000 $ de déficit et 45 000 de subventions. Donc, les choix ont été faits en conséquence d'aller tranquillement dans les choix, de mettre les artistes de l'avant. Maintenant, nous sommes à un budget à peu près d'un million et d'un demi-million de subventions sur le 20 ans. Donc, après, on pourra voir les choses. Ça donne le contexte, à peu près, et les choix qui ont été faits. Et on parlera du développement public par la suite.
Tout à fait. Voilà. Merci, Francine. 2 minutes 20, donc nous sommes restés dans les 3 minutes, c'est parfait. Marie Brassard, désolé.
Oui, bonjour. Bon, alors, mon nom est Marie Brassard. Je suis avant tout, actrice, mais bon, artiste. Après avoir travaillé pendant une quinzaine d'années, auprès de Robert Lepage en tant que créatrice à ses côtés. J'ai fondé ma compagnie qui s'appelle Infrarouge et depuis, c'est-à-dire 11 ans maintenant, je fais mes propres créations, souvent accompagnée dans la création et ou sur scène par des artistes de disciplines diverses. Mon travail est particulier. J'ai réussi à survivre et à créer en très grande partie à cause de l'appui que je reçois, soit des festivals, soit d'institutions qui agissent à titre de coproducteurs ou alors qui m'offrent des résidences de création. Depuis la fondation de ma compagnie et puis la création de mon premier spectacle qui s'appelait Jimmy, créature de rêve, j'ai entre autres bénéficié de l'appui du Festival de théâtre des Amériques et j'ai créé en fait la presque totalité de mes spectacles dans le cadre de ce festival. Je fais beaucoup de tournées, alors donc je présente beaucoup mon travail dans des festivals un peu partout à travers le monde et j'ai aussi des coproducteurs qui m'aident à créer un peu partout à travers le monde, que ce soit j'ai un appui récurrent des festivals à Genève, à Berlin, à Vienne, aussi à Toronto, Ottawa, à Vancouver, en France. Comme mon travail est particulier, je ne crois pas que ça pourrait nécessairement s'inscrire dans des saisons régulières à long terme. Donc vraiment, l'appui de ces festivals est absolument indispensable pour que je puisse continuer à créer. Alors, j'ai créé tout dernièrement mon dernier spectacle, qui est ma sixième création, et puis je suis présentement en train de réfléchir déjà à la suivante.
Merci. Nous pourrons revenir donc tout à l'heure sur cette expérience à la fois ici au Québec, mais aussi en Europe et à l'étranger dans la diffusion de vos œuvres. Une autre personne autour de cette table, Marie-Andrée Goujon, qui elle aussi a une expérience importante de la diffusion en tant qu'agent d'artiste, agent de compagnie. En fait, tu le présenteras un peu plus directement, aussi bien ici au Québec et particulièrement en Europe, également en Asie.
Oui, alors en tant que directrice de Daniel Éveillé Danse, d'abord je suis rentrée, Daniel m'a invitée à prendre le poste de direction, j'avais aucune expérience, et Daniel aussi avait un parcours assez atypique, dans le sens que ça fait 30 ans qu'il faisait son travail de chorégraphe, mais avec une structure, mais qui marchait pas vraiment, bon, en tout cas, bref. Ce côté atypique donne une grande ouverture de Daniel Éveillé par son expérience. Et il saisit que, quand les événements sont là, il faut bouger. Alors, ça m'a donné une idée. C'est-à-dire qu'il y avait autour, comme je venais du milieu de la scène indépendante à Montréal et que j'ai côtoyé beaucoup de gens, il est venu à un certain moment donné, un artiste qui n'était pas dans la compagnie, là, qui n'était pas danseur, qui n'était pas Daniel Éveillé, un artiste qui était autour de nous et dont on croyait, et que cette personne-là n'avait aucune compagnie, aucune structure, mais elle recevait des intérêts de diffuseurs internationaux qui voulaient présenter son travail. Alors, j'ai dit, sautons sur l'occasion, aidons-la. Et finalement, on est devenu producteur. Moi, je n'appelle pas ça agent, j'appelle ça producteur délégué. C'est-à-dire que c'est la structure de Daniel Éveillé Danse qui fait en sorte que la diffusion se passe. C'est-à-dire qu'on fait les demandes de subventions, on fait tous les contrats, on négocie les cachets, etc. Donc, c'est une aventure qui a commencé en 2005 de manière tout à fait aventureuse. Et puis, finalement, ça se maintient depuis. On a fait 6 ans d'accompagnement comme ça. Depuis 2005, on a fait 200 représentations de ces artistes autour, hein. Qui gravitent autour, puis de saison en saison, c'est de 20 représentations à 45 représentations par année. On a accompagné 5-6 artistes, je crois, à peu près. Et on essaie aussi de garder bien qu'on ne défende pas tous les projets de l'artiste, notre association, en ce moment, n'a jamais été en deçà de 3 ans avec chacun. Et puis une association avec qui on est depuis une personne, on la parraine, on appelle ça faire du parrainage, ça fait quand même 5-6 ans. Et la diffusion se fait aux États-Unis, au Canada, en Europe, parfois dans des petits festivals, parfois aussi dans des gros comme le Festival d'Avignon. On a été chez Norman avec Julien André au Push, bref, on se promène quoi. Donc ça fait de très beaux résultats.
Merci. Nous pourrons revenir également sur ces différentes expériences. Paul, peut-être, est-ce que tu peux revenir déjà, pour commencer, sur l'expérience du studio 303 et aujourd'hui, ton expérience à Halifax et les liens que tu peux tracer autour de ces deux expériences qui sont, il me semble, un petit peu différentes?
Oui, elles sont assez différentes. Alors, en fait, je suis arrivé à Montréal en 1989 comme un jeune... étudiante récemment graduée de l'université pour explorer la culture assez fabuleuse ici. Et tout de suite, je me trouvais comme bénévole chez le studio 303, qui à l'époque était dirigé par 3 femmes, Martha Carter, Jo Leslie et Isabelle Van Grim. Mais vite fait, c'était juste Martha. Et après elle, c'était Myriam Genestier et moi-même qui ont pris la relève de direction. Et je dirais... c'était le début du changement de studio et on disait, j'ai écrit dans tellement des subventions, « the little engine that could ». Alors, ça a devenu un espace, moi, je trouve assez important sur pour la communauté ici, comme une plateforme pour les jeunes créateurs émergents, mot peut-être trop utilisé, mais également pour les artistes plus matures, de développer du travail pour faire un premier essai. C'était vraiment pour moi une expérience riche, c'était grassroots, travailler avec beaucoup des artistes chaque année. À la fin, finalement, j'ai pris le poste à Live Art à Halifax, énormément à cause d'une frustration disons, d'investir peu des ressources, distribuer peu des ressources sur un trop grand nombre des artistes. Alors, on calculait chaque saison, il y avait facilement 100 personnes qui a reçu un appui d'une manière ou d'autre chez nous sur un budget assez minime. Alors, j'avais le goût de travailler, d'investir plus de ressources avec more resources for fewer artists. Alors voilà, j'ai déménagé à Live Art à Halifax et ça c'est intéressant. Avant d'y aller, j'avais entendu assez souvent les spécificités des créateurs dans les régions. Les régions. Mais finalement, c'est vrai. Alors c'était vraiment mes yeux étaient ouverts. Les régions hors des grands centres sont différentes, ils sont ressourcés d'une manière complètement différente. Et voilà, je trouvais finalement toute l'expérience que j'ai accrue ici avait une valeur là-bas pour une petite communauté des artistes qui n'avaient pas accès aux ressources, mais également pour moi l'opportunité de travailler avec... les compagnies plus grandes et de mieux ressourcer les artistes.
Juste avant de passer la parole à Norman, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les missions de cette organisation à Halifax ?
Excuse-moi, oui. C'est essentiellement, nous sommes un diffuseur spécialisé en travail, en danse. On fait une saison d'environ 7 événements par année. C'est notre mandat, c'est les artistes nationaux, internationaux. Alors, notre mandat n'est pas d'appuyer les artistes locaux ou régionaux. Ceci dit, bien sûr, on développe les projets pour offrir ou générer les opportunités pour ces artistes, mais c'est une saison un peu comme Francine, ça commence en octobre jusqu'au mai. Nous, on n'a pas un lieu, alors les spectacles, on cherche les spectacles pour la salle appropriée. Et ça varie entre des salles de 60 places, très intimes, jusqu'à la salle de 1000 places selon le spectacle.
Merci. Norman, donc à la fois metteur en scène et directeur donc, du festival Push à Vancouver, tu peux nous parler un petit peu de cette double expérience de metteur en scène. How you organize it as a director and also as a director, theater director, and also as a director for this Push Festival.
The Push Festival is a festival that happens every year. It's 3 weeks long. It's a multidisciplinary festival. Probably more theater than any other discipline, but we do a certain amount of dance, a certain amount of music, and hybrid types of works. The festival is across the city in various size venues, everything from 1,000 seats to 120 seats. It's been around as an idea for about 12 years or so, a real sort of set of discussions in Vancouver, the need for some kind of international curated festival. As a festival as a itself, it's been around only for about 7 years, and as an organization, only 5 years. So it's pretty young. In a region that is challenging, to say the least, regarding funding, public funding, and has gotten even more challenging in the last while, extremely challenging. I think probably the thing that I would say about the festival, and just lastly, too, we also do an industry-type thing similar to what is here today and yesterday. We call it the Push Assembly. The curation of the festival is not just by myself. Senior curator Sherry Johnson is a major collaborator in the festival. We also have a club, Club Push, which is a new platform over the last couple of years, which has a couple of guest curators. We do an awful lot of partnerships. It's part of our... it's actually, we like to do it, but it's also part of our strategy in terms of developing audiences and developing our own kind of field of interests and such. It's really part of the multidisciplinarity of the festival. It's also part of the situation in Vancouver, a particular city that's really strong on organizational partnerships. Really smart, savvy, hardworking people and institutions, but institutions that are very interested in working across the disciplines and across the city and across social and hierarchical kind of walls or obstacles. But I think the primary thing I would say about PUSH is that it was founded by two artists, myself and a woman named Katrina Dunn, who is a theater director. It came out of two theater companies, and it came out of a desire by Katrina and myself to essentially change the milieu or the situation in which we were working. We were trying to change the context in which we were creating work, which that work was being received by audiences, that the work was being viewed, or our own efforts were being viewed by public funders or private funders, as the philanthropists, as the case may be. We were trying to change a situation that would not only facilitate what we wanted to do, but perhaps also challenge ourselves, the limits of what we thought was possible, or what we imagined, but maybe in our minds creatively, but thought never would work or never would have an audience or such. And over the sort of the course of the last 7 years, I think we always believed that the festival was needed, but I think in the last few years we really discovered that it was actually wanted. It succeeded. It had 24,000 people attend this year. It had, a real sort of tipping point in terms of public awareness and social media and such. We've still remained at the core, true to this idea of changing the context and the situation, which of course involves new work. Fairly standard things, and from commissioning or co-producing, as the Europeans tend to say. In English Canada, co-producing in theatre tends to suggest that there's a shared risk at box office and revenues and expenses, which is unfortunate because I prefer the idea of co-production, that terminology. But in English Canada, you tend to use the word commission, which also is not particularly clear either, because it tends to, with some people, suggest that supposedly the commissioner approached somebody and said, do something for me, as opposed to perhaps participating in the second draft of something or any means by which you might contribute to the development of a new work. But we've also done residencies recently, and I think it's something that I think that festivals should more and more start to explore, and there's a variety of different ways. I think a lot of it has to do with intent as much as it is with length of term or particular resources that you might provide in residencies. And we've also tried to, I think, attempt with this industry idea of introducing people to Vancouver and Vancouver to people elsewhere, is to do it on both an artistic level, sometimes creating projects and situations where artists are brought together in the same room. Also done on a public level, obviously through standard things of talkbacks and stuff, but also done it on a presenter to artist level, trying to foster relationships that were not simply based on a buyer's mentality, a thumbs up, thumbs down Roman kind of approach, which is basically you like the show or you didn't like the show, and if you didn't like the show, there was nothing to talk about. So we've been trying to kind of support the idea of new creation and long-term relationships by sort of sideways, in a way, as much as we've been doing it directly with the creation and presentation of new works. I think probably we'll talk a little bit later around, I think, some of the differences between presenting new work from elsewhere and new work from your own community, because I think there is a whole set of different things to consider, and perhaps things that a presenter is responsible for doing, and maybe some things they aren't responsible for doing, and such. But yeah, that's enough.
Merci Norman. Nous avons terminé ce premier tour de table avec Mark Murphy. Mark Murphy is in Los Angeles. That's why. Just to say that on va continuer le tour de table avec Mark Russell from PS122 and Under the Radar Now.
Let's see. It's very interesting to hear these stories because from my partners up here, because some of them reflect a lot of these alternative spaces, which was PS122 is a certain part of a generation of alternative spaces around the U.S. And all of our budgets seem to tap out at about $1.5 million somehow. It's always that way. And PS122 was it was a festival, but it just didn't stop. That was the deal. And we had two theaters, and we were putting things up all the time, mostly local, New York City-based work, but sometimes bringing in international groups as well. And I wanted to also pick up a thread that was yesterday, was We were there to fail. It was a real place. It was a sandbox in which artists were there to fail. And I, as the artistic director, would sort of decide who we were going to take a chance on and give them enough resources, or try to give them the resources, to go in a room and make something and see if it stuck on the wall. And we had a lot of luck. I mean, some things really stuck on the wall, and some things really slipped down fast. But I also, there was a great situation where I could, if I did not understand it, I could book it again, and then again, until either I understood it, or I knew they were full of crap. And so it was a great process of doing that. And I think there's an important thing about presenters, and maybe especially the presenters in this room, is we stand behind artists. We understand artists. And often more producers need to be the smartest person in the room. And that gets into an interesting conflict. What if the artist is more interesting than the artistic director of the major city theater? You might have a problem there. So so anyway, that was PS 122, and I did that for 21 years. My retirement plan was to die in my boots there, but that didn't work out so well. And in 2004, I left and did a few other things. I started consulting, and I created this festival called Under the Radar. I created it in conjunction with the Arts Presenters Service Organization in the U.S., and it happens as part of their convening each year in New York in January, where about 4,000 people come that book theaters and are presenters. And there are a wide range of presenters. There are people, you know, people who are responsible for the Super Bowl, as well as people like PS 122, booking 60-person shows sometimes. People that are looking for their Willie Nelson contact, and then or their juggler, and their orchestra. And some of them actually tick it off that way. But there was we were sort of another answer to that, or trying to be a different answer to that. And it was part of another conversation that was happening in the U.S., which had to deal with these independent theaters, these homeless theaters, theaters without really big, their own shops. Maybe they had an office. Groups like Elevator Repair Service or the Civilians or some of these other people that have, the Nature Theater of Oklahoma. These groups were existing in the U.S., but not at the major theaters, not at the major regional theaters. And the regional theaters, many of their budgets average about $300,000 to $500,000 or more for a show. And there's a lot of resources they could put there. So why was this double standard going on? And what was the real American theater? Who were the people really creating American theater? Why had the Wooster Group never played a major American theater? Why had the Wooster Group not played the Guthrie Theater? I thought that was a little odd. So there was this conversation going on, and it was a wide-ranging conversation. A lot of theater people saying, were just going, I do new work. I have readings of plays every day. And we all thought that was really nice of them. But so I decided to do a festival in the form of a symposium, or a symposium in the form of a festival, where I would show what I thought we were talking about, and then people could react against it, or with it. And it's basically a forced march of theater, attendees like yourself, seeing theater. And essentially also recreates a European-style festival. Festivals are not that useful in the U.S. Often they are more serialized. They take place over longer periods of time. They don't have clubs. They don't mix audiences so much. So that was Under the Radar, and it had a bit of success, and we're going into our eighth edition. And what I've been able to do is bring it into the public theater. I've now managed to... trying to not get in trouble. I've been a mole at the public theater, and now I'm actually part. I'm a paid member of the public theater. For a long time, I was getting the same wage as an intern, but I had to raise all my own money for the festival. And somehow I flipped it on them, and now they're raising money for this festival and hiring me, and we're continuing to do the festival. They've decided to make it a core part of their mission, which is great. And though they really resisted each year, every year in January for 2 weeks, they allow me to book their theaters, which is a pretty brave thing for my artistic and my boss, the artistic director, Oscar Eustace, who is a director and deals with real plays and new plays and is the primary confidant of Tony Kushner, among other people. So he lets me book this for 2 weeks, and we have fun. Now, what we've done is we are now in the second year of a project where we're trying to take what Under the Radar does and do it all year round by developing American artists, for the most part, developing work, finding a way to develop work. And I think we'll get around to talking about the problems of developing work and then having a showcase like Under the Radar, which has a high profile. Radar is branching out, as you mentioned. We're in a couple weeks, June 14th, around 6 o'clock, we're going to start Radar LA. And so I am very pregnant at the moment. And so we're trying these different things. Should I talk about Radar LA a bit? I'm talking way too long.
Why you decided to develop Under the Radar LA?
Hmm?
Why you decided to develop this festival in Los Angeles?
Why did... In Los Angeles? I was invited there. The person that helped was running a fund foundation that helped start Under the Radar New York, is now the cultural commissioner in Los Angeles, Olga Garay. And she asked me to see what I could do there. And we've been working for like 4 years trying to figure out what would this be? How would this look? How could we raise the money for this and make it happen? That felt like there was a need for this type of event. And now it's turned out that we're making a collaboration between Red Cat, Mark Murphy, and the Center Theater Group and the Theater Communications Group to create such an event. We're hoping that this is not a one-time event, that it'll continue, and my preference would be every other year. We'll see. We'll see how it goes. And then we are going to do also Radar DC, and that's in September of 12 at the Arena Stage. Again, and that one will focus only on American artists, but we're hoping to have an international symposium around it. The artists, I'll just lastly mention that the artists at Radar LA are all Pacific Rim or South America and West Coast artists. And so I couldn't just ship over what I do in New York. It's not doing what I do in New York there. It's taking the formula, the structures of it, and seeing if it will settle in Los Angeles. Thanks a lot.
Merci. Peut-être une première question, une nouvelle question qui s'adresse principalement à Francine, à Marc, à Norman et à Paul. En tant que diffuseur, j'aimerais que vous essayiez de définir un peu votre mission et j'ai choisi quelques mots. En tant que diffuseur, vous êtes organisateur, médiateur, facilitateur, curateur, financeur uniquement, gestionnaire culturel ou organisateur des goûts du public. Peut-être Francine ?
J'ai envie de répondre à toutes ces personnes à la fois. Je crois qu'on est obligé de faire toutes ces fonctions, surtout à Montréal. Je pense que j'ai des compagnons diffuseurs ou des compagnes diffuseurs dans la salle qui peuvent le dire. On fait tout cela à la fois. Moi, je vous dirais que ma principale question quand je commence à travailler avec un artiste, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour l'aider à développer une carrière? Est-ce que mon équipe est la bonne équipe? Est-ce que je suis le bon endroit? Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Si je n'ai pas l'impression que je peux aider, je dis non. Parce que l'artiste est mieux d'être accompagné par quelqu'un d'autre, tout simplement. Ça, je trouve, pour moi, c'est extrêmement important. C'est ma question primordiale. Et j'y vais ou j'y vais pas en réussissant à répondre à cette question-là. Après, découle tout le reste. Parce que effectivement, puisque maintenant nous offrons vraiment les résidences, nous donnons de l'argent de coproduction, je dirais, est-ce qu'on va aussi sur ce qui manque, ce qu'on aimerait faire aussi, parce qu'à l'intérieur de ça, c'est pas vrai. En même temps, on fait comme toutes des petites parties. Est-ce qu'on réussit à tout bien faire? Ça, c'est ma grande question. Parce que je pense qu'on est débrouillard. On n'a pas nécessairement de l'argent pour tout faire, mais on fait des petites parties. Donc, l'artiste doit aussi apporter des parties. Et c'est ce qui fait qu'on réussit, je crois, surtout dans les dernières années, à en faire beaucoup et qu'on se rend avec des productions de qualité. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, parce qu'à Montréal, je trouve que nous offrons de la qualité.
Et comment arrives-tu à évaluer si vous êtes la bonne structure ou pas pour accompagner cet artiste? Et tu l'évalues seul, tu l'évalues avec ton équipe, hein, avec l'artiste également?
Oui, je pose la question à l'artiste aussi, si vraiment elle a l'impression. J'ai tendance à l'évaluer seule. Je consulte Marie-Josée Beaubien, qui est dans la salle. Elle va vous dire que non, mais c'est vrai, je la consulte. Je prends les décisions. C'est ma fonction. C'est mon rôle, donc je prends les décisions. Voilà, une de mes grandes... On peut-tu lancer des grandes préoccupations aussi? Pourquoi pas que ça sorte? Moi, ces temps-ci, ma grande préoccupation est aussi comment est-ce qu'on peut vraiment aider, on fait toutes ces parties-là, mais comment vraiment aider dans apporter de la vraie aide, du soutien à la création et du développement. Comment est-ce qu'on peut aider à ce que les artistes fassent de la recherche et bien les soutenir? Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'œil extérieur et comment est-ce qu'à Montréal, on pourrait mieux développer les personnes qui accompagnent au niveau artistique. Comment est-ce qu'un diffuseur pourrait aider, mais sans tomber à donner des formules à des artistes, juste bien soutenir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça, ces temps-ci, en tout cas, je suis en réflexion par rapport à ça, de comment ne pas sortir, pas mettre un cadre, et comment on peut faire ça. Moi, je dirais, Marie-André, ce qui m'a marqué, elle a, à un moment donné, on a présenté un artiste à l'Agora, et dès le lendemain de la première, Marie-André était sur le téléphone à discuter du spectacle au niveau artistique, préoccupée de comment son artiste, pouvoir mieux discuter avec lui de comment mieux l'aider. Et ça, c'est rare. Et je trouve que ça, c'est une forme de soutien à la création qui est extrêmement important dans le suivi et tout de suite de se préoccuper de aussi, moi, je pense telle chose, est-ce que tu as vu la même chose que moi ou pas? Ça, c'est les questions qu'elle posait dès le lendemain de la première pour essayer d'aller rapidement, beaucoup plus vite et comment mieux soutenir cet artiste-là.
Merci. Paul, peut-être, à la fois la question de tout à l'heure, en fait, avec mes définitions, et peut-être aussi, en complément, comment aider, comment accompagner, comme vient de l'évoquer Francine. Mm-hmm. Est-ce que le diffuseur, c'est uniquement placer des œuvres sur un plateau et mettre en place la billetterie et organiser la communication et le marketing, ou est-ce que vous avez une fonction un peu différente?
I do agree with Francine that it's a multi-role. We do not do one thing. You know, just listening, it's like I realize, and this is for me one of the big realizations in moving to a smaller community, is that often, like in Halifax, there's, in terms of dance presentation, there's live art dance productions, and then there's nothing else, really. So it's almost like a position where it becomes really important what we bring to the community. Because if we don't bring it in, the community does not have access to it. So the weight of choice on the, you know, an individual curator becomes really important and frightening. in that sense, and supporting creation, choosing what goes on, it all goes through. It's like how does this balance this individual community's needs in terms of access to culture, and it's when Francine says, you know, est-ce que je suis la bonne personne pour l'accompagner? It's like that's a question that hits me a lot, and it's because we're the only group or organization to accompany an artist often in our community. So it's a big one that is frightening and unfortunate and challenging. You know, the idea of accompagnement also for me is new, and it's, you know, for a smaller community, and I think it's really important. You know, and again, it was something that I didn't realize until I left Montreal. All you Montrealers, do you know how fortunate you are to have the resources available to you in this city? Oh my God. We don't have it elsewhere in Canada. We do not have it. And this is another thing. For me, like, to support an artist in their creation, often it can be as simple as writing a letter. It's golden to them to have a letter saying, I'm interested in your work. They get to turn that into our provincial arts organization. It's like the kiss of bounty to have that letter from Live Art. And I don't mean to, you know, elevate this too much, but it's just like, because we're it, you know. And I wrote earlier, leaving 303 was like leaving the, you know, changing from being a little fish in the big pond to being a big fish in a little pond. And it's just, you know, that's an important responsibility, I think, as presenters to remember that wherever we are.
Merci Marc, peut-être. Cette question de responsabilité du diffuseur, comment toi tu la gères aujourd'hui à Endeavor Radar, et qu'est-ce qui fait que tu décides que peut-être ce sera le bon moment, selon toi, pour présenter telle compagnie à cet endroit, tout particulièrement à New York, pour Endeavor Radar, ou pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, comment tu travailles sur des passerelles peut-être pour ces artistes entre Endeavor Radar New York et peut-être Endeavor Radar Los Angeles ou ailleurs. Donc comment tu gères cette responsabilité et comment tu formalises aussi cette notion de responsabilité d'accompagnement des artistes?
I feel the role of presenter is in making friendships, is in between the audience and the artist. And that's where I work. That's what I'm interested in. I'm interested in how the audience gets the program and how much they pay and how they walk in and whether the bathrooms work. I'm interested in that part, their whole experience. And I'm also interested in the artist's experience and what they bring to the table. And I'm interested in getting those people together. I'm also with as an advocate for the artist. And as an advocate for the artist, I work in so many different ways, trying to find the money, often trying to network for them, making friendships or calling other people like Norman or Marie Hélène, going, you need to check out this artist. And I have a wide, you know, contact, a wide field of friends that I meet at conferences like this that help support the artists that I'm interested in. And feedback through to me as well. The other thing about a presenter is, in our particular community, is I use it as a way also of talking to the artistic community, sort of challenging them, especially in a place like New York, where that is the center of the earth. So it's very helpful to bring in other points of view and present. That's why we have an international festival. I hope I answered it.
Norman, maybe the same question. What is your responsibility as artistic director of this festival, and how you deal with its responsibility?
I sort of come back to the idea of the situation. There was a late American avant-garde theater artist who was a big inspiration to me, Joseph Chaykin, who was asked, I think at one point, frustratingly, why the hell don't you write down your processes, your strategies for creating new work, what you do in rehearsal rooms and such. And he said, why would we do that? What we had come up with was answers to very, very specific questions for ourselves. Why would that make sense to somebody else? And for us in Vancouver, you know, the festival, while being an international festival, is still essentially, I mean, other than the visiting presenters, it's really for the people in Vancouver. And so in answering the question of what the festival's responsibility to artists in Vancouver, there is, of course, the standard commissions, you know, providing financial resources. It's really key in Vancouver. Unfortunately, or fortunately, over the last few years, we've had some specific monies around with the Olympics, and also more recently with our city's anniversary for commissioning and such, but that's all going to be gone, actually, after this year. There won't be any rabbits. I don't even know if there'll be any hats to pull something out of. But so we're going to have to search elsewhere. The Canada Council unfortunately dropped the Festival Co-Production Fund, which frankly was a really great program and went a long way. I know why they dropped it. They dropped it because of the demand on the touring program and the oversubscription, but that was a really key element, and we're going to have to answer and replace that somehow. So it's going to be a real demand on our community of presenters and venues and such to figure out ways to bring on private partners to address that gap, because money is money, and money is time, and money is resources and such. But there are some other inventive ways to approach this. For one, the media. We have terrible media in Vancouver. We're not going to waste your time with it. They're good-hearted sometimes, well-intended and such, but they really are not that consequential. So one thing that we did this year was to put a lot of emphasis into social media. We invited 12 prominent bloggers from the city to our gala. We had a big gala with the mayor's office and a whole bunch of things. And what we wanted to do was certainly to democratize the idea of responding to work. We really wanted other people out there to have a conversation about what the work was. Not that necessarily it would affect audiences or such, but in fact that to empower other people to speak about work and how they felt about it. We trended on Twitter, whatever the hell that is. It's a volume of activity, but we did. There was an incredible amount of activity around Twitter, around our Facebook. I mean, we went to 2,300 people, friends on Facebook. We tripled our unique absolute visitors to our website from 10,000 to over 30,000. And the desire was to have other people speaking for the work. Not to say that necessarily they were better because they were more naive or fresh or you know, innocent or that type of notion, but simply to spread the power. I think one of the things that you can do as a presenter with new work is to focus on the conditions. I think, you know, putting art in the right venue. I mean, probably the worst night of my life as an artist was witnessing a work in the wrong venue. It is the most terrible thing you can do as a presenter. It brings out the weakest parts of a work and hides all its strengths. So I think the key thing as a presenter is to ensure that you present it in the right physical condition. Secondly, that you promote it properly. You don't oversell it. You make sure that the people who are turning up are the people who should be there. We presented Jerk by Giselle Vieira a couple years ago, and it was a big fright for a lot of people. For whatever reason, it wasn't for us, and we put it on the cover of our program for our festival. Very dark. I mean, this, you can't get much darker than this piece. But in the promotion of the piece, inside the brochure, we put it in a certain venue. We talked about it in a certain way. We did everything to say, if this smells like you're going to scream or you're going to protest profusely that this was ever in the festival, please don't turn up. You'll know about it, and you'll know that you'll be going to something else in a festival that also has this piece. So if you want to be a part of a society of art that includes the range of this work, then I think you'll be proud to be you know, a patron of the Push Festival, even though Jerk is there and you'll never go anywhere near it. So I think, you know, the way that you promote the work is really important. And I think the easy things sometimes are easy to forget, things like talkbacks. We have about 80% of our audience stays for any of our talkbacks. And these are also in large venues, you know, 400-seat venues. People who actually choose in the festival to go to specific evenings to be able to have a conversation, to hear that conversation. talkbacks are very easy to do and not to be forgotten. I think there was a period in English Canadian theater anyways when people started to go, well, I guess we won't do them anymore because nobody asked the stupid question, so we've educated the audience. It wasn't about educating them. It was really about providing an opportunity for them to connect and to ask questions and to hear something beyond the chocolate bar that they purchased at the candy machine. I think another notion is a big responsibility around supporting artists, particularly out-of-town artists, and it doesn't always happen, is to try and create situations where artists can connect the out-of-town to the local. It's really, really important, particularly around the question of work that is forging new ground in some way. I think it's really important that artists, your local artists, are given opportunities, informal or formal, but particularly informally, by creating friendships and relationships, where they can speak to their colleagues elsewhere and go, how the hell did you do that? I had that idea once and I didn't think it was possible. To really find those possibilities where they take over the power again and where you're not the gatekeeper as a presenter, where they have the success of the OFF Festival here, to me, is about empowering other people beyond the gatekeeping of the FTR. So I think that's one of the ways that which you can do it. But again, I really stress that people need to think about the situation of their own milieu, and if your milieu is across countries, then that's it, you know, of working with other presenters. But to really think about the situation of which, and to answer and find ways to answer that very particular to that, and that there is no one formula. Even in the terms of cash and commissioning, I don't believe there's one formula that works in all milieus and with all types of artists and all cultural backgrounds and structures and such. So the whole question, even commissioning, is not one answer fits all.
Merci. Quittons un petit peu le côté des diffuseurs et des programmateurs pour venir du côté des compagnies et à la fois donc Marie-André Goujon et Marie. Marie-André, par rapport au travail que vous faites avec les différentes compagnies, dont Daniel Éveillé, mais également Martin Bélanger et d'autres compagnies, est-ce que vous avez l'impression que cette pression sur la diffusion, sur cette nécessité de montrer le travail qui n'est pas uniquement une nécessité artistique, mais qui est aussi la pression des conseils des arts, des gouvernements et autres, a tendance ou pourrait avoir tendance à entraîner une forme de formatage des œuvres?
Non, je pense pas. Forme de formatage, dans le sens, ouais. Non, je pense pas, parce que je crois que quand la production est bonne, je crois que on trouvera toujours, l'artiste trouvera toujours un partenaire diffuseur qui va être capable, être apte à se lier à cette forme spécifique. Voilà. Non, je crois pas. Par contre, ce qui est pas facile, c'est de trouver son partenaire. Et c'est dans ce sens-là que... C'est pour ça que je disais, je me vois pas comme agente, parce que c'est pas mon métier, mais comme productrice. J'essaie de faire, moi, en fait, de stimuler les mariages, en fait. Et à travers la compagnie, je rends possible le projet, puisqu'ils n'ont pas de compagnie, ils n'ont pas de structure, et ça devient très lourd pour eux à porter, des fois, la négo, les subventions, l'engagement, les charges sociales. Non, je crois pas. Évidemment, par contre, il y a une chose, les artistes qu'on accompagne sont presque tous des artistes de la scène émergente. Donc, venant de la scène émergente, ils travaillent aussi dans une économie de moyens. Donc, évidemment, peut-être en même temps, ça limite la forme. T'sais, on n'est pas à travailler, à se promener exceptionnellement, sauf un. La plupart des projets avec lesquels je travaille, il n'y a pas 36 000 décors. C'est les gens, c'est à peu près tout. Là. Puis après ça, c'est l'imagination qui est là.
Même question autour du formatage à Marie.
Dans les interventions précédentes, il y a deux choses. Je reviens un peu sur ce qui s'est dit auparavant. Deux choses, deux expressions qui m'ont frappée puis que je trouve pertinentes. C'est l'expression de long-term relationship, d'une relation à long terme, et to be there to fail, être là pour échouer ou avoir des échecs. Je crois que dans cette relation entre ces diffuseurs ou ces coproducteurs qui nous appuient, je parle ici en tant qu'artiste beaucoup, Ces deux expressions qui peuvent sembler contradictoires, c'est quelque chose de très important. Et ces relations qui sont établies, qui sont pas nécessairement inconditionnelles, mais qui sont ouvertes sur justement la possibilité des échecs, fait en sorte qu'on peut, en tant qu'artiste, demeurer innovateur et continuer d'essayer de faire des propositions qui vont peut-être échouer et par là, justement, s'évader un peu du système plus normal où les critères de rentabilité sont toujours mis en avant-plan. Et moi, je profite beaucoup de cela parce que, en tant qu'artiste qui est soutenue par cette sorte de réseau de personnes qui s'intéressent à mon travail, je sens non seulement qu'ils agissent en tant que coproducteurs, ces gens-là, mais ils sont aussi là pour agir d'une certaine manière en tant que critiques, mais d'une façon extrêmement constructive et précieuse. Et en même temps, justement, comme agent pour établir des relations entre ce que je fais et entre moi et le public également. Et il s'ensuit une sorte de dialogue qui, justement, peut nous empêcher d'en arriver justement à avoir une certaine nivellement des productions qui peut nous encourager à continuer à créer dans une sorte de liberté. Et moi, c'est ce que je trouve extrêmement important, extrêmement précieux, quelque chose à préserver, ces sortes de rapports qui justement nous permettent d'éviter le formatage ou ce nivellement des œuvres. Ouais.
Pour revenir sur la question, juste avant de passer la parole à Francine, peut-être une chose, pour revenir sur cette question de laboratoire, d'essai, d'expérimentation, vous trouvez assez largement aujourd'hui encore des espaces pour ça, vraiment?
C'est très difficile, mais ça arrive dans certains contextes, souvent plus dans les petites villes, je dirais, par contre, moi, ça m'arrive souvent que je dois créer, par exemple, ou que je crée, que je suis invitée pour que je dois, mais c'est avec plaisir aussi, que je crée des festivals dans le contexte des spectacles dans le contexte de grands festivals. Et donc, maintenant, avec l'expérience, je me suis mise à développer une sorte de stratégie où je peux parfois jouir de résidences, pas nécessairement dans les petites villes, mais dans des endroits un peu en retrait, pour faire des expérimentations un peu avant de sortir comme ça dans le monde. Parce qu'effectivement, des lieux pour travailler, c'est ce qui nous manque le plus si on n'a pas son propre lieu. Il y a beaucoup d'artistes qui ont leur studio ou leurs endroits. Moi, c'est pas mon cas. Et donc, souvent, c'est probablement la chose qui manque le plus, en fait, de pouvoir avoir un espace où il est possible de travailler, puis même éventuellement de faire, moi, ce que j'appelle des sortes de répétitions publiques que je fais occasionnellement, c'est-à-dire montrer mon travail sur invitation à des gens comme ça qui vont venir puis qui vont accepter d'échanger avec moi.
Merci. On reviendra un petit peu peut-être tout à l'heure sur ces outils de médiation. Mais Francine, tu voulais réagir?
Oui, on dirait que le terme succès n'est lié qu'à la vente de billets.
C'est une question que j'ai posée.
Moi, je dis juste que non, c'est pas ça. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est si un artiste, effectivement, est tout seul, a l'impression qu'il a fait le spectacle du siècle et qu'il est extrêmement incompris. Ça m'inquiète. Parce que là, il n'y a pas de vision juste par rapport à son travail. Mais je veux dire, dans le processus, pour moi, c'est quand on parle de travailler à long terme, il faut qu'on voit par rapport à l'artiste dans ce qu'il fait, sa propre évolution. Et moi, le succès est beaucoup plus en ce terme-là, où le diffuseur est satisfait et l'artiste est satisfait, pas tant en termes de fréquentation publique, mais par rapport à ce qui est offert sur scène. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je veux juste qu'on fasse attention. Moi, je ramène souvent la notion aussi d'objectif avec les artistes. Parce que s'ils passent d'une toute petite salle et de se retrouver à travailler sur un plateau moyen, ben l'objectif est d'être capable de bien travailler cet espace-là et d'apprendre plein de choses par rapport à ça et pas la notion de vente de billets, d'autant plus que si tu as vendu que 200 billets, ben si tu en as vendu 250, c'est déjà un succès, là. Donc, il faut juste faire attention parce que ces temps-ci, je trouve, ce que j'entends beaucoup, c'est, et même de la part des artistes, ça m'inquiète, eux, ils vérifient plus souvent le guichet que moi. Ça, là, c'est devenu que pour les artistes, c'est extrêmement important de tout vendre et de remplir la salle. Non, je trouve pas. Il faut placer dans les contextes et faire attention là, à cette notion du succès. À Montréal, c'est devenu ça aussi. Là. Et c'est beaucoup plus, je dirais, que ça vient souvent, je ne sais pas d'où, mais ce n'est pas un poids qui est mis de la part des diffuseurs. Là.
Tu es sûr que ce n'est pas un poids qui est mis de la part des diffuseurs? Qu'est-ce que vous en pensez,
non.
tous les deux, en fait?
En tout cas, pas moi.
Ben, en fait, moi, personnellement, je ne souffre pas de ça, de la part des diffuseurs, de cette pression de succès à tout prix. Mais j'ai aussi, en tant qu'artiste, établi une sorte de dialogue avec les producteurs, mais également avec le public qui a été comme un peu fidélisé au fil des ans, les gens qui s'intéressent à mon travail. J'ai toujours parlé très ouvertement de cette possibilité de l'échec. De dire aussi de l'échec ou de simplement de une sorte d'école buissonnière d'une aventure qui débouche pas nécessairement sur un succès ou sur un conditionnel et j'aime beaucoup mettre de l'avant que être artiste aussi c'est d'exposer sa propre fragilité pour qu'elle ait une sorte d'écho aussi dans l'esprit des gens qui nous regardent. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant aussi de privilégier ou de favoriser cet accompagnement, non seulement par les coproducteurs, mais aussi par la relation que les coproducteurs favorisent entre les artistes et le public. Et c'est une sorte de manière aussi de... pas d'éducation, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir à enseigner quoi que ce soit, mais je pense que c'est une chose très importante, c'est un point très important que Francine souligne ici. Je pense aussi que c'est le rôle des festivals qui sont un peu plus en marge, justement, de prendre ces risques et d'assumer ces risques, justement, que les productions ne soient pas nécessairement des succès. Parfois, je pense, j'ai un souvenir très, très vif d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a très longtemps. C'était il y a peut-être 20 ans, dans un festival à Zurich. Et on était allés en groupe voir un spectacle qui était très bizarre, très particulier, qui durait à peu près 20 minutes, qui était dans une sorte de tout petit théâtre, c'était très sombre, on voyait à peine des éclairs, parfois des morceaux de corps, ça ressemblait à un truc vraiment sombre et glauque, et ça durait 20 minutes, et quand ça s'est fini, on a été surpris, on a fait « Ah, c'est déjà fini !» Mais je me souviens qu'on avait eu la conversation, après on a dit « C'est merveilleux quand même, parce que c'est que dans un festival de théâtre qu'on pourrait voir des œuvres comme ça. » Et je vous dirais que cette personne dont j'avais vu le petit morceau d'œuvre à l'époque, c'était Castellucci. Ouais.
Merci. Marie-André, je crois que tu voulais répondre également un peu à cette question autour du succès ou de la pression possible du succès ou de la billetterie.
Bon, évidemment, comme moi, je me sens une courroie de. Le rôle, c'est plutôt une courroie de transmission en permettant la diffusion et que l'aventure se fasse. Et parfois aussi, je participe à des contrats, des projets de coproduction lorsque l'artiste a besoin d'une structure. Donc, c'est vrai que quand je travaille avec eux, ben, je suis bien contente s'il y a du public, mais là, de mon côté, comme j'ai dit, je me vois plutôt, quand je travaille avec eux, d'essayer de faire des mariages potentiels avec des partenaires qui, éventuellement, pourront intervenir dans leur prochaine création. Parce que plus souvent qu'autrement, je ne travaille que très rarement avec des créations. Je travaille avec des productions qui ont déjà été créées et qu'on amène sur la route pour leur donner plus longue vie. Et aussi parce que, comme la plupart, ce sont des artistes émergents, les introduire à l'étranger avec la production qui a fait ses preuves, qui est solide, puis qu'on est confiant d'amener sans se casser la gueule. Donc, la pression, tant qu'à moi, et des fois, pour moi personnellement, l'artiste voudrait demander, c'est de plutôt... Évidemment, c'est bien qu'il y ait du monde dans la salle, mais c'est plutôt d'amener les bonnes personnes dans la salle pour tenter les mariages ou les partenariats possibles dans le futur.
Merci. On a évoqué la question de votre responsabilité en direction des artistes, tous, en fait, pour la présentation des œuvres et le meilleur accompagnement. Quelle est maintenant un petit peu votre responsabilité en direction du public, puisque c'est également votre rôle en tant que diffuseur. Et donc là, je m'adresse à Francine, Marc, Norman et Paul. Comment vous gérez ce rôle, cette responsabilité, comment vous la voyez, cette responsabilité, dans des contextes très différents, puisque Paul évoquait il y a quelques minutes le fait qu'à Halifax, vous êtes le principal organisateur et diffuseur. Je pense que cette responsabilité est différente pour Paul et peut-être pour Marc, à New York particulièrement. On peut peut-être commencer avec toi.
J'oublie si c'était Normand ou Marc qui disait, qui parlait de... pensée perdue. De trouver mettre la bonne salle. Pas la bonne salle.
La meilleure salle pour placer.
C'est à côté de ça. J'ai perdu ma trame. C'est le moment de répondre le public.
Human struggle.
Can you see it? The idea to make sure that the public for me knows what they're going to see. If they're going to see a show that has been well resourced, that is polished, is has been performed, it's a known entity, or is it a show that is in creation? So it's that sense of context, and I absolutely agree with Normand, the right piece in the right stage, and Gardinia in the Ludgard Duvernay last night is like, wow, classic. To make sure that the audience knows what they're going to see, and this is something that we've heard in my programming, and again, because it might be a young artist in a 60-seat theater, it might be a more mature artist in the same 60-seat theater, but it's the theater that is required. But often the conception is it's like, oh, it's at the bus stop theater, and it's like, that's, this kind of work happens there, so I don't need to see that. I'm not interested in it. So to make sure that... we connect the work with that we identify it with our public. I think we don't want people to come with, so many preconceptions about what it is they're going to see, but we want them to come with an understanding that they're going to see something that is either is ready to go or it's a workshop. So that's one of our constant interests in terms of placing work, and I'm just going to shut up for a moment.
Marc, peut-être?
Maybe this is when I can talk about the under the radar, which we've had a couple situations where the American work was not ready to be, was not prepared to be seen. It was still work in progress. So we're sort of shying away from premieres at Under the Radar, which is very different for me. And I'm looking right now for a different system or a different way of protecting those artists to develop and prepare them for the sort of the platform that is that two weekends in January. One of the things is these artists are they're opening to the most judgmental audience they can imagine with critics and producers. On January 4th, so that means they probably had 8 hours to tech. And it can be devastating. And so I'm looking for a way, especially for the American work, to find ways to build muscles and build places to fail. And I'm still in the middle of all that process. But this is something I've discovered about my own festival as it's gone on, and maybe is a problem of the success of the festival. Another thing that's interesting that I think is, and maybe this is off topic, is that festivals are now the new alternative spaces, in a sense. Because these days, in most cities, there's just not a lot of space. And it's very expensive. And there's also not a lot of spaces that conform to the way artists are thinking these days. So it's a little easier, or it's more useful and fluid to have a festival. So, and there's festivals like Pica and Fusebox in Austin, Texas, and the Philly Live Arts Festival, small festivals that are really answering those needs. Ben Pryor out here is running one called American Realness, which happens at the same time as Under the Radar. And again, a young festival that's finding its way in this way. And in some ways, I think maybe 15 years ago, Ben would have started an alternative space, but he started an alternative festival. So I don't know why I talked about that. But I'm still interested on the artistic side of finding that way, and then making my preparing the audience for that is the other part of my job, and maybe the main part of my job. This is a festival for New York City, and I'm trying to get little ladies in tennis shoes in from, but I'm not. I am not necessarily inviting them to jerk or finding ways that they can miss jerk but not know that they're missing it. You know, it's very delicate surgical work, actually.
I wrestle with the idea of festivals being a good place to support failure. I mean, I don't know. Mm-hmm. I know what Mark you're talking about. I'm not certain one way or the other, but there is an inherent contradiction and opposition around the idea of failure in festivals because of the stakes and such. I think another thing that I'd like to say around, or maybe is say around, or something I'd like to say around failure is that I think too often we conflate too many issues and things into one notion around failure or risk. You know, there's financial risk that was being spoken about. There's risk with your audience. There's risk with your funders or your stakeholders, to use an often hated word. Because I think that the biggest thing that we have going for us in creating art is faith. And I think that's our real currency. And I think as long as you protect the idea of faith or integrity, a kind of belief in the practice, the artist, the endeavor, the attempt, then I think you're going to do the best to support work. With festivals, how do you do that? You certainly keep away, and you the people who shouldn't be there, who won't enter the work properly, who won't wrestle with it in the way that it should be wrestled with. And sometimes that can be confrontational. The work can be confrontational, and it's about a confrontational relationship. So set that up and encourage that. But the idea of how to support failure in a context of a festival, I tell you, it's a really, really tough one. It's a very, very tough one because, again, audiences will have a different relationship to artists who are local because they actually have a long-term, ongoing friendship. They know where their artist has been, perhaps, for the last few years and where their inklings are, what they might have failed on in this case or what they were striving for. They can read between the lines. But if we're in Vancouver bringing Castellucci with, Hey Girl, they have virtually no context. So how are they going to sort of encounter that work? So do I bring Castellucci with a failed work of his? No, I don't think I'm going to go out and look for it. There's going to be no appreciation for the endeavor. I think the person yesterday from Hamburg, you know, really shifted that whole notion around failure really nicely in saying that it has to do with a kind of sense of rigor, or for me, a sense of rigor, a kind of, you know, I have no interest in presenting work that fails when it shouldn't have failed, that it failed because of laziness, or it failed because people didn't think it through enough, or it failed because I didn't work hard enough. I have no interest to encourage or celebrate or ask anybody else to celebrate work that should have been better than it was. I think that risk, real, real, real risk, because failure is the worst thing that can happen to anybody, should be really focused to the real danger, to the real place where something is being attempted, where everything has been done to answer the questions or the unknowns. And the real, real risk is what you have no idea whether it'll work or not, or whether you'll come out at the other end. That I can honor. And I think audiences actually will feel that as well.
Audiences feel effort on stage. They feel it from an actor, certainly, and I think they actually read it in terms of the creator. I think they feel in a work that where there is a kind of muscle, where there is a kind of struggle and a wrestling with some idea and an attempt and a persistence with that, in the same way that I think they see that with a performer. I think audiences expect 100% from a technician. The light comes on or off. But from a performer or from an artist, I think they expect 100% effort. That I can stand behind, that I can argue for. And frankly, too, in terms of this question of success of audience and such and ticket sales and everything, I think the worst thing for a presenter is to put it all success into ticket sales, because if it doesn't work, you have nothing to stand on. Your cynicism to the work or to the artist or your superficiality, your superficial relationship to that is not upheld if the tickets don't sell. And you're left with just simply, you gambled and you lost. And it was a gamble as opposed to the idea of what you believe in, certain values that you believe in. If we as a presenter, the festival, the Push Festival, if the audience can understand our choices and why we chose to do this work and why we chose to support a certain artist and why we chose to present a certain work, if they can believe in that, they will come back again. I know it. And that's been the case over the years. We've presented stuff that hasn't succeeded or that hasn't grabbed with people, but they have appreciated the choices that we've made and why we made them. And again and again, we're bringing artists that in Europe are extremely well known, but in Vancouver, they're not, and such. And people are coming with kind of, you know, Ryoji Aikide, we're selling out 350 people for Datamatics version 2.0. We're doing things in Vancouver that we opened our festival 1 year with Quizula, which is a 6-hour piece by Force Entertainment, which usually has maybe a couple hundred people see it in a sort of isolated space. We had over 1,000 people see it over the course of 6 hours and go through it because we put it front and center, and our audience approached it for our choices and our decision to place it in that context. So I think it goes back to, I think the practice of a presenter is parallel to the practice of an artist in the sense of intent. And the follow-through on that intent and everything to succeed on what that intent is and what that desire is.
Marie, tu voulais réagir à ces propos?
No, I was just wanted to precise what I meant when I was talking about failure. I mean, failure is not a goal. It's not something you want to attain. It's really something that might happen if you attempt to create a work that is a bit out of the ordinary. There are two possible resolutions: or you will fail, or you will succeed. And so failure is a possibility. What I meant when I was saying that it's great that if producers support failures, I didn't mean that it was something that you'd like to present, but I mean that the important relation between a producer and an artist is that the producer support the artist and not this work or that work, because a failure is normal to happen in the career of an artist, because it's a career is a long story that goes, and so that's what I meant by that. I just wanted to make that decision. Yeah.
Yeah, I think failure with integrity is the deal. And can I quote a Canadian?
Yeah,
go ahead. You know, there's a crack, and that's how the light gets in.
You know. Francine, est-ce que tu souhaites réagir en fait à cette...
J'ai rien à ajouter, ils ont tout dit.
Moi j'ai une petite question pour toi, pour continuer en fait, en 18 années de direction de l'Agora à peu près, tu as vu les conditions de présentation des œuvres évoluer, tu positionnes différemment dans les modalités de présentation des œuvres, et pour revenir vers la notion du public, quel type d'outils vous avez développé de médiation avec ces spectateurs?
Je dirais qu'effectivement, on change avec effectivement, on apprend avec l'expérience, hein? Donc on change un certain nombre de choses. On essaie de mieux travailler, d'offrir un plus grand, vaste de possibilités à des artistes, de mieux écouter. Effectivement, on a même aussi déjà offert Jocelyne Monpetit qui faisait une recherche avec la lumière, donc elle avait besoin de la salle, et donc on est allé jusqu'à un mois à lui offrir la salle avant le spectacle, puisqu'elle dansait vraiment avec la lumière et c'est ce qu'elle avait besoin, le spectacle n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas offert ça. Donc, il faut absolument moduler notre intervention et de mieux écouter et de mieux offrir les choses. Je suis dans une période, effectivement, comme ça fait un certain nombre d'années, dans une période de réflexion, période de changement, d'essayer d'aller, je crois, plus loin. Nous sommes en train de mettre en place un groupe de discussion parce que je crois qu'on ne discute pas assez de la création, du processus de création. Donc ça, on est en train d'être un groupe de 7 personnes qui va se réunir quelques fois dans l'année, un mélange de créateurs et quelques théoriciens. Pour essayer de mieux soutenir aussi, de mieux comprendre sur quoi on intervient, comment on le fait. Et ça, je trouve ça important qu'on le fasse. Et comme je disais, je réfléchis là, sur d'aller plus loin dans le soutien, de raffiner, de mieux, essayer de mieux travailler, en tout cas, avec chacun des artistes qu'on présente. Pour ce qui est du développement public, là aussi, nous avons offert de toutes sortes. Nous intervenons beaucoup dans les écoles. Nous offrons un atelier présentement qui est slam et danse et qui, je crois qu'on en a offert, écoutez, une somme à peu près à une centaine d'ateliers par année, ce qui est énorme dans les écoles. Nous raffinons les choses aussi, où là j'aimerais que des artistes, on a fait avec Pierre-Paul aussi, qui était le premier chorégraphe à être en résidence dans une école sur une saison. Nous sommes à mettre en place présentement des résidences de création dans une école secondaire. Donc l'an prochain, nous aurons 3 chorégraphes qui non seulement vont aussi travailler en partie des petites actions de développement public, mais aussi travailler vraiment dans le lieu, puisqu'ils ont une salle de spectacle. Et donc, la salle de spectacle va être ouverte à des créateurs et pouvoir faire vraiment recherche et création dans cet espace-là.
C'est des chorégraphes qu'on retrouvera dans la saison de l'Agora?
Non, pas nécessairement.
Pourquoi?
Pas nécessairement à court terme. Si on parle de recherche et création, ça peut être, oui, dans 2 ans ou... Mais c'est dans le bassin d'artistes avec qui on travaille, oui. Quand on parle de public, effectivement, je ne veux pas non plus qu'on prenne trop la main du public. Moi, je pense qu'il faut, offrir les groupes de discussion après, que ça soit, mais le avant-spectacle m'intéresse un peu moins. Je veux qu'on fasse attention, on l'offre à des groupes, c'est les professeurs. Là, c'est un cadre qui est mieux défini. Pour ce qui est du grand public, je crois qu'il est capable de trouver son compte. Dans ce qu'on offre. Ensuite, bon, écoutez, on a inventé sur le 19 ans là, de toutes sortes, qu'on a laissé tomber et qu'on raffine et qu'on change dans nos actions, où on était dans la proximité, dans le quartier à intervenir ou d'aller carrément, effectivement, à l'autre bout de l'île. Mais c'est pas ce qui, je vous avoue, m'intéresse le plus. Donc... Fais-y, boum, c'est tout.
On a un petit accompagnement musical avec un téléphone. Mais...
Je ne sais pas si ça a répondu. Mm-hmm.
Merci. Peut-être qu'on va prendre un petit peu de questions dans la salle, Karine. Et en fait, avant même de prendre une question, j'avais une question moi-même à quelqu'un dans la salle, puisque Marc a fait référence à lui tout à l'heure. J'aimerais bien interroger Ben Prior, qui est par là, Ben. Je vois qu'il lui est revenu. Peut-être qu'il est juste ici, en fait, Karine. Voilà. Et... Puisque Marc faisait référence au festival créé par Ben depuis 2 ans à New York, American Realness, je voudrais savoir, Ben, si tu as conçu ce festival comme un espace de laboratoire, comme un espace d'expérience, puisque Marc disait tout à l'heure que les festivals étaient peut-être les derniers lieux, les nouveaux lieux de l'alternatif. Est-ce que American Realness a cette fonction ou est-ce que American Realness a une toute autre fonction?
Yeah, And Mark talked about this also, that it's, you know, that I created the festival because Under the Radar is this glowing beacon for new theater in this moment during APAP when all these people are coming to New York, but there wasn't such a thing for dance specifically. And so I wanted to answer that, you know, sort of pending thing. But APAP is tricky because you have so many people coming to New York. And so the pressure, like Mark said, is on. And it's this big question of, like, you don't want to show something that can fail because then it's like, oh, that person is done, you know? And, like, people are really judgmental. So it's been a question that I've had in terms of showing, say, work in progress, right? Because it's something that, you know, you want to support a certain artist, they're making a production, it is a great moment if that showing goes well to potentially get more commissioners or co-production or somebody to say, yes, I will book that work and when it's ready. But it's definitely a challenge. So I wouldn't say that I really think of it as a lab because that's like, it's too much high pressure for that to really exist. At the same time, I have presented a bunch of work in progress and have found that that has been successful for people, like in that they have confirmed some pending conversations through those showings. At the same time, as I'm looking at next year, it's not something that I'm thinking about as much for a number of different reasons. One, that there's this high pressure moment. Two, because what does that do? You know, for myself in making a festival, there's an interest to show new things and not, you know, like, The festival is complicated in that there's not really money going into it. It's really a big puzzle, as I say. But I would love to think of it more as a lab, but I think it's too much of a high pressure thing in that you have so many people coming, and you want the artist's work to succeed.
Merci. Il est 15h05. Peut-être qu'on va prendre une première série de questions, si vous avez des questions. Karine, juste ici.
Hi. I have a comment and a question. The first comment is around failure. And for me, one of the most inspiring things that a Sister Wendy said, I don't know if people know who Sister Wendy is. She's the woman that went around the museum's BBC program, and she was talking about the history of art, and her comment really sort of struck me was art doesn't get any better, it just changes. And I feel that we're in a room of people who embrace change, and I feel that failure for me is a frontier, and I think that that's what we do, and I think that that's why when I think about failure, I think of frontier, and that's how it works for me. My question is along the lines of frontier, and we hear a lot about people talking about social media, new media, and my question is in the same way when the composers left the streets and went into the churches to create music and compose, and everyone forgot about the people making work and composing work for outside. Are the tools the new media tools for those artists leaving a whole generation of artists behind? And because there's a change, there's a change happening, and not just in using social media as a marketing tool, but who are the artists that you are looking to, are excited about, who are using these tools to create work, and are you programming them?
Mm-hmm. Mark and Norman, maybe. Mm-hmm.
You program? Yes. No. I'm very much a Luddite, and what I want out of theater, especially, is something that gets at something we can't get at in social media and movies and all the screens that approach us. So I'm interested in people that subvert those things, but sometimes I'm doing people who do it with lots of technology. And it's trying to make that technology invisible or part of the system that makes me interested in those pieces, not just the technology itself. We can never compete with the toys. We will always be way behind as far as toys. And I mean technology. So like a group like Rimini Protocol, who has played at Norman's place and my place, did a thing called Calcutta in a Box. I don't know if anyone saw it. I don't know if it played this festival. Mm-hmm. But you went into a room and you ended up sort of Skyping back with some people in a phone room in Bollywood. Mm-hmm. It was an amazing piece. Using Skype in a way that eventually, you know, made you complete, it was very emotional, beautiful thing. You formed a whole relationship across this internet connection. So I'm interested in that. I am programming some of it when I see it, that when it excites me. But I'm kind of just always looking. One thing about festivals is that we are able to include some of these experiments I'm going to do Entente Grude, the smile off your face, which is for one person at a time, and some of these different ways of using theater to get at what is the theater moment interest me. Matter of fact, I think kind of my whole agenda for my festival is why make theater now? And I have about 12 answers, or 18, or however many it is. Does that answer?
Merci. Une question ici au premier rang.
Yes, my question is for Francine Bernier. What did you find out maybe so far how to support the creative process? What are critical points in it? Or how could you help?
Non, c'est, la question est comme ça? D'accord. Excusez. Parce que la traduction était difficile. Écoutez, nous, ce qu'on a trouvé, c'est en tout cas d'ouvrir la salle, que les créateurs puissent au moins travailler un minimum. Il y a les résidences de création qui, pour nous, sont extrêmement importantes. Tout l'été, l'Agora est accessible à des résidences de création. Donc, il n'y a pas de présentation publique. Ils travaillent dans la salle à faire la recherche et création. Et ensuite, l'hiver, non, ça ne répond pas à votre question? Et l'hiver, c'est parce que ce n'est pas clair.
Not exactly, because you talked about this group in which you are discussing.
Cette discussion.
In which, yeah.
Okay. Non, ce que on est en train de le mettre en place. Donc, notre objectif, il n'a pas encore eu lieu. Nous sommes en train de le former et nous voulons débuter donc tout de suite après les vacances. L'intention est vraiment de discuter sur, avoir en tout cas un certain regard sur ce qu'on fait présentement. Essayer de voir, de comprendre. Pour moi, c'est important que, en tout cas, que le diffuseur aussi participe à ce groupe de discussion qui va être principalement des créateurs et qu'on voit où on s'en va, dans cette recherche, où on s'en va sur ce qu'on fait. Et après, on verra si on peut, nous, apporter des moyens peut-être pour mieux les soutenir. Mais moi, ce que je veux, c'est principalement que ça soit un groupe de discussion vraiment de créateurs sur la création. Et on verra ce que ça donne. On a prévu, et ça va être tout ça est monté par une artiste, c'est Isabelle Van Grim qui coordonne ce groupe de discussion-là. Et pour moi, et il y aura, comme je vous dis, il y a une théoricienne, possiblement deux, là-dessus. Et c'est vraiment aussi, ce qu'on tient, c'est que c'est pas alentour, c'est alentour d'une table, mais dans une maison, liée à un repas, liée au côté plus ludique. Pour moi, ce n'est pas un groupe de discussion qui est comme ici, très formel. Là. C'est, on le fait en dehors des cadres et d'essayer de faire sauter un peu ce qu'on est habitué. Voilà.
Une question ici.
Oui, oh, hello. I have a lot of beaucoup d'idées dans mon tête maintenant, mais j'espère juste pour I'll find one. It's more like a point for conversation. I've worked in the Bronx in New York for over 10 years, and it's not so much an alternative space as an alternative borough in a way. It's very Latino. I support a lot of Latino and Bronx-based artists, and like even if I did it as a festival, it really wouldn't bring presenters or people up to the Bronx because they don't want to go. I've tried many ways, car services, forget it. So last year I did an APAP at home. I just wanted to say something about it because I was really happy because it was an experiment. It was usual no money kind of thing, but we actually got 20 people to come from Manhattan to the Bronx, and we had 6 choreographers with private showcases. And I wanted to have, like, this is very special to be in this kind of environment. Like, we can actually talk to each other, and I'm actually saying something to, like, major people in the field in my eyes. It was we had lunch, everyone together, like, artists and presenters talking, like, as people and not so much the separation. So it was a big deal. And I guess I also wanted to say two things. One, we also have Karen Bernard here from the Performance Mix Festival, who's been doing work in 3 cities for many years. And I just wanted to, I guess, ask questions about, it's one thing about failure and how you define failure and all these things, but also just trying to get, the artists I've worked with have been working very hard for like decades. So it's, for me, it's like getting their work up and out to other, you know what I mean, other levels to get them moving, to get more work, to be out of the Bronx, coming back to the Bronx, faire beaucoup de, plus de change. I'm all nervous. Okay.
Merci. Est-ce que Marc vous répond?
Well, you know, it's always that struggle trying to get these artists that we love out, and I think some of these smaller groups. Actually, I just remembered that I have a small group too, called the Director Circle, which meets. It's about 20 people that meet at various offsites, and it's a combination of presenters, people like people at this table, and producers. I'm trying to form some relationships over by isolating these people, taking them to festivals, but outside their comfort zone, so that they can start to talk to each other. So that some of the groups that we all love or share, we can find if there are shared strategies here. Sounds like you did the right thing. Sounds like I wish I would have been able to come to that dinner. You know, I think the thing is that we're always looking for the fresh work, for the real work, and trying to keep ourselves open enough to see that work, despite the onslaught and the people puffing you up and all the other things. You know, I think it's really important to note that there's an ecology here of size and intent, and so their festivals couldn't exist without places like Agora, you know. And we need to take care of the whole breadth of your cultural ecology. And I hope that Montreal and that Quebec and that Canada understands how good it is and how well their system has been working. You know, I know you have complaints, but I'm always impressed by the work here. And I hope that you can continue to make your cases. And because it does come around to money and space. How could we do our jobs better? How could we support these artists better? It would help if there was money. And it's a very, you know, finally, we end up beating ourselves up around in this community quite a bit because we're trying to make it to do it with duct tape. And sometimes I like to stop and say, you know what would fix this? Money. And someone should give us some, you know, and we could make their lives better. And trying to make that case constantly. So I know that there's the world seems like it's turning, trying to turn back the dial in a certain way, except in Egypt and a few other places. But in my country, and in England and Holland, in both Hungary, there's a very conservative bent going on. And there's I get very scared when I talk to Europeans that go, we're trying to use the American model. And it's like, ours doesn't work. So I hope there's more embrace and that we can continue the fight. I think it's a global fight and a global struggle to keep the resources out there for culture to exchange and to keep growing.
Merci, Marc. Il y a deux questions ici, en fait. Monsieur, d'abord.
Merci. Je m'appelle Pascal Wanou. Je suis comédien et directeur du Festival international de théâtre du Bénin, le FITEB. Je voudrais d'abord remercier la table, tous les intervenants, en commençant par ceux d'hier jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Je crois que les échanges auxquels nous assistons là sont très enrichissants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela participe aussi d'une certaine forme d'accompagnement entre nous-mêmes d'abord, diffuseurs, directeurs de festivals et autres. Et c'est à ce titre-là donc que je voudrais vraiment remercier Marie-Hélène et le FTA pour m'avoir invité à ce festival. C'est la première fois que j'assiste au FTA, que je viens au Canada d'ailleurs. Et ce que j'apprends ici, ce que j'entends ici est pour le moins enrichissant pour moi. Le FITEB que je dirige depuis plus d'un an et demi maintenant, disons depuis à peu près un an et demi, est l'un des plus grands festivals de théâtre en Afrique, pour ne pas dire le plus grand en termes de festival de théâtre sur le continent. Il se déroule tous les deux ans au Bénin, dans plusieurs villes à la fois. C'est l'une de ses caractéristiques. Donc c'est un festival décentralisé, mais qui reçoit des spectacles de théâtre et de danse d'un peu partout. Sa vocation, c'est surtout de servir de plateforme à l'excellence théâtrale, d'où qu'elle vienne. Et donc, pour parler du thème qui nous réunit depuis hier, à savoir l'accompagnement dans le processus de la création artistique, c'est vrai, j'ai suivi les interventions des uns et des autres venant d'horizons divers. Et j'aimerais bien partager avec vous, si vous le voulez bien, la petite expérience que nous sommes en train de vivre à plus de 10 000 km d'ici en Afrique, dans le pays que je connais le mieux, parce que c'est là où je suis né et où je vis, le Bénin. C'est une expérience qui, disons, ressemble ou est identique à ce que vivent la plupart des autres pays environnants dans la sous-région, notamment ouest-africaine. Nous connaissons presque les mêmes problèmes en matière d'accompagnement. Mais peut-être que l'expérience du Bénin a quelque chose de particulier, en ce sens que, au moins chez nous au Bénin, nous les artistes constitués en association, en fédération, nous avons réussi peut-être à obtenir de l'État ce que beaucoup de pays dans la sous-région n'ont pas pu, beaucoup d'artistes dans les autres pays n'ont pas pu obtenir encore, c'est-à-dire la mise en place d'un accompagnement vraiment substantiel. C'est vrai, au regard de ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région, nous on peut nous enorgueillir pour dire nous avons quelque chose, même quand on sait que du point de vue des besoins qui s'expriment, il est encore largement en deçà des attentes. C'est quand même déjà important que du point de vue de l'État, vis-à-vis de l'État, nous ayons pu obtenir cela. C'est-à-dire que concrètement, nous avons pu réussir à obtenir de l'État la mise en place, disons, d'un fonds de soutien aux initiatives artistiques et culturelles. Cela permet donc à l'État d'offrir un certain accompagnement aux initiatives artistiques C'est vrai que ce fonds est doté d'un truc très dérisoire au départ. Et c'est là où je suis d'accord avec quelqu'un hier qui a parlé, je crois que c'est M. Thirion, qui parlait de la culture du ministre. Au Bénin, il est évident ce concept-là. Parce que depuis 1990, nous n'avons connu que des ministres, excusez-moi l'expression, mais vraiment totalement analphabètes de la culture. Mais nous avons quand même réussi à exploiter la chose autrement, en retournant un peu la situation, c'est-à-dire en nous organisant, disons, sous forme de groupe de pression. Et depuis, je crois, 5 ans maintenant, nous avons eu à la tête de l'État un président qui est très sensible aux mouvements sociaux. Nous en avons profité aussi pour faire monter les enchères, ce qui nous a permis d'obtenir au niveau de ce fonds-là, disons, un accroissement des ressources. D'un montant de 250 000 CFA, je crois que ça fait à peu près 500 000 dollars, à peu près, si je me trompe. Nous sommes passés aujourd'hui à 1 milliard de francs CFA, donc plus de 2 millions de dollars.
Je vais devoir vous interrompre, il nous reste 5 minutes à peine pour une
oui,
dernière question.
Très rapidement, par rapport au FITEB, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le FITEB tend à jouer un rôle plus important, qui va au-delà de l'organisation du festival, et donc un rôle de diffuseur également. Étant donné que nous sommes en train de disposer aujourd'hui d'une salle de spectacle d'une capacité d'à peu près 400 places, et donc dans quelques semaines, voire un mois environ, cette salle sera opérationnelle, et donc nous allons, disons désormais, aller sur ce terrain-là de la diffusion des créations, des œuvres également. Et donc l'expérience que j'entends partager ici, pour moi, est très enrichissante et je voudrais encore vous en remercier. Ce n'est pas une question, c'est juste un
témoignage.
Partage.
Voilà. Merci, on pourra continuer à discuter avec vous pendant la pause pour les personnes qui le souhaitent ou après la deuxième table ronde. Vous pouvez passer le micro à la personne qui est à côté de vous, s'il vous plaît, monsieur.
Thank you. I just want to say I'm relating to this discussion of failure and all those kind of things. And I think two words that popped in my mind as an artist who creates that I think I'm always trying to eliminate from my process is this idea of anxiety and fear. And I feel this, I think a certain amount of, you know, fear is okay in the work or and can do as maybe to do with the risk and stuff. And one of the things that I find that has helped or where I feel my practice is going, and my question is related around residencies, and I guess directly to people who are running festivals, is there maybe a trend more towards artists, especially out-of-town artists, maybe doing more residency-type work at festivals? As someone who's experienced literally popping in and out of a festival in a day or two to being there for a week, I found a direct correlation to the work actually improving and being able to be performed better the longer I've been at the festival and having experienced a residency, I found a significant improvement in the work and my understanding of both the context and the space and its relation to the community and the issues that I'm dealing with. And I'm just curious, as someone who's talked to some presenters and have been, you know, there's been a sort of a curiosity there, but it feels like a lot more of a discussion needs to happen. Obviously, I know that it may take more work on my end, but it feels worth it if, as opposed to trying to just have a sort of a product or a DVD that I'm sort of pumping out.
We've been, for the last few years, trying to look at different ways at which we could create situations to have artists from out of town interact with the local scene. So we've been embarking on a number of things. It's nothing particularly radical. Other people have done it, but bringing in artists to resituate existing work. So this year we brought in Mariano Pensati with La Marea. It was at FTA a couple of years ago, I believe, and originally saw it in Dublin. But we also brought in a man named Volker Gerling from Germany who does flipbooks of encounters with people. He walks about mostly Germany, but we brought him in for 3 weeks to walk about the city and to create a couple of pictures and to speak about his practice. We did things, Peter Reeder from England with a piece called City of Dreams that he did. It's a sort of a piece on a particular city, a given city, but we brought him in for 2 to 3 weeks to create a version specific to Vancouver because it's Vancouver's anniversary this year. We've done other things like Tim Etchell's That Night Follows Day. We did an English version of it in Vancouver in co-production with Seattle. There with local performers, kids and children. So we've been trying to sort of look at situations where not so much by bringing somebody in prior to doing a work. I think Mark did a lot of, I know with Dada Kamra, with, for instance, Daniel McIver, you know, a lot of his work was developed over the years in part by support from people like Mark, where the work was developed further every stop along the way, you know, for a couple of weeks before perhaps a week or 2 weeks of showing. I'm particularly interested as a presenter in this idea of resituating, you know, and this opportunity to for my artistic community to contend with an artistic proposition, either a way of working or a new aesthetic, a frontier, to use Franco's words. You know, I think you know, festivals to simply bring in somebody to exist there for a period of time, I think is perhaps hard to, not to justify or rationalize, but to put it another way, hard to perhaps raise the resources for that. But I think to look deeper in how an artist may relate to the local milieu could provide often, I think, pretty interesting arguments to both public and private funders to actually step up and play a role in a kind of meaningful connection, a social connection, which I think sometimes actually people in the private sector understand best, this idea of socialness, of interaction, you know, face-to-face with people beyond simply seeing them on the stage. I think residencies are a huge avenue for new work to be done in terms of festivals, in the practice of festivals. I think there are some people, Europeans, for instance, I was down in Singapore recently for an atelier for young festival managers put on by, sort of coordinated by Hugo de Grief, Mark did it a year before. There are some people who believe that's really the responsibility of venue-based organizations who are year-round and such. I don't know. I mean, you could have that debate. I think that festivals playing a deeper relationship to the work than simply buyers is a behind, really, I think, a lot of what the question is around new work. And I think residencies and making connections and a relationship to the local scene, perhaps even to the media and even perhaps to audiences, is a way to open up a kind of space for a more forgiving or a more sympathetic or more generous relationship than the high stakes of new work in festivals.
Merci Norman. Peut-être une presque dernière question pour Madame.
Yeah, I was just gonna. This is just basically along the lines of what you're talking about, because I don't think it's come up so much, the idea of making dance and theater vital to communities who don't normally see dance and theater, and how that can create a situation that is open to failure, but open to a lot of success, because it's an audience that doesn't normally see dance. And I know with Andrew and I, who run Wants and Needs Dance, we present work at Sala Rosa, which is normally a rock and indie rock and experimental rock venue. We present work in an empty indoor pool in the middle of Mile End. So we try to set up situations where dance can take place, where the expectations, no one knows what to expect. You know, when you take it outside the theater, suddenly there's such a freedom for people. And I mean, I know we want to give people the freedom to fail, but I almost feel like when we remove all expectation, we actually set up a situation where there's more of a possibility of success. And just, I think it's a really important thing to do. I think what you guys do is amazing, but I think it's really important to talk about how do we make dance and theater vital for people who normally go to indie rock shows or who go to MuTech, or who don't go to shows at all, but are invested in a community or invested in St. Henry. You know, I think that's a really important question that hasn't come up yet, and how that affects artists and the way they make their work and their sense of success. That's all.
Yeah. I think, you know, in something about a festival, a real festival, allows the audience to take a risk. You know, it creates a good bubble where you can, your audience is taking a risk as well. Seeing different things, hearing about different things, seeing something they may not have thought they would like. And that's the beautiful thing about festivals. And hopefully some of that works. Then, and I think a lot of this interest in social media and the new world we're in is what is breaking down these barriers of it only has to happen in a box, in a theater. And most of the new generation, a lot of the new generation I'm dealing with, is not asking for theaters. Unfortunately, I have theaters. I don't have warehouses. But so I run into this, or rock clubs. But I'm running into this problem constantly in trying to invent it, reinvent my festival in that way. But I think this is the way of the future. It's the element of surprise is very important.
Paul, tu veux réagir?
Je suis d'accord, tout à fait d'accord.
Merci. Peut-être une dernière question, Madame.
Je vais me risquer. Ma question concerne ce qu'on a mentionné tantôt comme du fresh work, être à la recherche de ce nouveau, de cette nouveauté. Par contre, quand on regarde dans les programmations à travers la planète, on voit souvent le même type de travail qui circule. On voit beaucoup des courants, des tendances, des modes, c'est normal. Et ce que j'appellerais même des fois la dictature du public. On sait que le monde aime ça, plus qu'ils en aiment, plus qu'on leur en donne. Et il y a des chefs de file, il y a aussi des gens qui sont très habiles à manier certains ingrédients qui font en sorte que ils vont répondre à ce qu'on appelle les courants et les tendances actuelles. Donc, il y a certains artistes qui ne travaillent pas dans ces types-là, qui font souvent un travail qui est de plus en plus marginalisé. Et des fois, ça peut être des formes qui sont plus conventionnelles, qui sont rendues marginales et aujourd'hui, et vice-versa, selon certains milieux et toutes tendances. Donc, ma question est, quels sont vos outils pour aller chercher ce fresh work ou tout ce qui est hors tendance et hors courant actuel? Quels sont vos outils et quel est votre intérêt? Quel est votre intérêt de diversifier vos programmations au point justement d'aller contre les tendances? J'aurais peut-être une petite solution à vous suggérer. Je dirais que le travail de Marie-André, je pense qu'elle cherche justement à créer, à repérer des artistes qui sont plus jeunes et à les mettre en lien avec vous. Ça peut être un outil. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que voilà?
Peut-être on va proposer trois réponses. D'abord Marie-André, puisque tu as été interpellée, après Francine, et peut-être après soit l'un de vous trois, en fait, pour terminer la table ronde. D'accord. D'abord Marie-André, peut-être.
Quels sont les outils? Ben, tu l'as dit, j'en fais déjà un. Mais par contre, je peux déjà vous annoncer une très bonne nouvelle. Donc, dans cette expérience qui nous a amené comme ça à supporter des gens et au fur et à mesure, voilà, il va exister maintenant un jumelage entre un théâtre en pourtour de Paris et un théâtre ici. Ils vont partager le même nom de festival, Ardenté. Alors, c'est pas moi qui l'ai organisé, mais en essayant de marier ou de stimuler des mariages ou des partenariats, ben il y a deux théâtres qui se sont mariés. Et donc, ça va devenir finalement un autre outil pour solidifier la relation Montréal-Paris ou Canada-Québec. Voilà. Et j'espère que ça va autant servir, pas juste les émergents, mais aussi... les vieux émergents, mais pourvu qu'ils, du moment qu'ils ont encore toute leur jeunesse. Voilà.
Marc ou Norman?
Well, one thing is within your organization is to invite younger people to be involved and be involved actually in a way that has meaning and relevance. We have an associate curator, Dani Fecco. She's mid-20s. She's called associate curator because actually she feeds into the curatorial decision making. She's involved very much in terms of the face of the festival and a lot of the work that has to do with engaging with the community in some way or another. I think you have to remain curious and open. I mean, you're not going to learn of everything by just simply being open to an email that comes past your way, but I think that's still at the heart of it, you know, that... And I think it's actually... it's very easy to fall into the trap of finding the next Worcester group as being open and curious about the next generation, which in fact is just another style of trend setting, you know? So I think you have to actually fight against that as well. And I think you have to keep going back to thinking about who you're speaking to with presenting this work, is to look around your world that you're living in and saying, am I addressing the world that's around me? And if I'm not, perhaps it's because the wrong artists are being brought in, or the wrong genres, or the wrong aesthetic is being brought in, and as well as, of course, content and such. So I think you have to keep going back to the source of why you're doing the festival and not fall into habits and patterns
that are easy in one way or another, whether by trendsetting or picking up what's floating around or what's offered by extended tours with other partners across North America. You have to keep going back to your own purposes and keep asking yourself, how do you keep feeding that in some new way? Because I agree with you. I think sometimes the question of the new is as much a tyranny. I think innovation is a sorry word, actually. It's not a word I like very much. I like the idea of relevancy much more. And I don't mean in terms of topicality. I mean what's relevant, what's meaningful. And sometimes what's meaningful is to go to very, perhaps, considered to be conservative or of the old. We've presented work that's been around for a long time. We presented an artist, Eddie Ladd from Wales, with a piece called, I don't even remember the name of it, a fantastic piece about Scarface. It's just a signature piece and a piece that I knew would speak to my audiences, artists and alike, and it was in the dance center. And it brought the house down. I didn't care whether it was 5 or 6 years old. I didn't care whether somebody in Europe was going to be impressed because I chose Scarface and I was on top of the new trend. It made sense to bring this artist to Vancouver for a whole series of questions. So I think As a practitioner, is going back to the source of what your purpose is and reinvesting in that and trying to keep that alive and fresh and challenge yourself is one way.
Yeah, I think you're talking about your interior process. Some people are much more intellectual about it, and some just deal with their heart. I'm always trying to surprise myself, basically. You know, this is where I start. Not to pump it up too much, but it is sort of an artistic process in itself, and not to grow moss myself. Although the most radical thing I did last year in the Under the Radar Festival was by a guy named Sam Beckett, you know. So I'm always trying to flip it around and see which way we can shake it.
Merci à vous tous. Je pense qu'on va faire une petite pause avant de se retrouver à 15h45 pour la dernière phase en fait des débats, avec un débat portant sur l'écriture, réflexion sur la critique et la théorie comme mode d'accompagnement de la création artistique. Je vous propose de remercier l'ensemble des intervenants de cette plateforme. Merci à vous. Remercier à nouveau l'EFTA pour l'organisation de cette table ronde et tout particulièrement Karine qui l'a coordonnée. Et puis vous pouvez continuer la discussion avec tous pendant la pause, de toute façon à l'extérieur ou à l'intérieur autour d'un café.
Comme il est déjà 3h-20, donc 15h40, je vous propose qu'on recommence à 16h. Ça vous laisse le temps de vous prendre un café, un sandwich et voilà. Donc 16h. Merci.